juillet dans le réseau Renault participant, c'est le prêt à partir. Kangoo Ice 1.2 à partir de 13 590 euros, soit 1310 euros d'économie. Offre soumise à condition.
L'actualité scientifique en compagnie d'Alain Sirou et de ses invités. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Le premier voilier solaire baptisé Cosmos 1 a fait naufrage. Et nul ne sait, à l'heure où nous parlons, s'il s'est abîmé dans les eaux glacées du Grand Nord ou s'il tourne encore à la dérive dans les plus hautes couches de l'atmosphère. Olivier Boisard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour
merci à vous.
Commenter cet événement que nous avons suivi cette semaine sur Europe 1. Vous êtes président de l'U3P. L'U3P, c'est l'association qui s'occupe de la propulsion photonique. Donc c'est l'Union pour la promotion de la propulsion photonique.
Exactement.
Vous êtes un passionné de ces grandes voiles solaires qui nous ont fait fantasmer par l'idée simple que l'on pouvait mettre une sorte de voilier solaire dans l'espace. Est-ce que vous êtes évidemment aujourd'hui très déçu de ce qui s'est passé cette semaine, après des années d'attente, la disparition corps et bien du premier vaisseau spatial à voile solaire?
C'est une étape.
Ouais.
On est forcément déçu, vous imaginez. On pense à toute l'équipe américaine et notamment à Lou Friedman, le père du projet, qui a fait un superbe boulot ces dernières années. Et puis c'est une étape. On sait maintenant un peu la cause, enfin on a des éléments sur la cause des problèmes rencontrés. Alors au bout d'une minute et demie à peu près de lancement de la fusée porteuse qui est partie à l'heure dite, à la seconde prévue, il y a eu un problème, si nos informations sont bonnes, sur l'allumage, enfin sur le fonctionnement d'un moteur. Donc ce qui est important de retenir pour nous, pour être positif, c'est que Cosmos n'est absolument pas en cause, le voilier solaire n'est pas en cause, c'est une défaillance, comme il y en a parfois, d'un lanceur, dans le spatial.
C'est quand même une drôle de configuration, Olivier Boisard, parce que je veux dire, les quand on envoie un satellite dans l'espace, habituellement on part d'une grande base spatiale comme Kourou, on part de Cap Kennedy, on part de Baïkonour. Là ça se passe en mer du Nord, dans la mer de Barents, à bord d'un ancien sous-marin nucléaire soviétique, russe aujourd'hui, avec un missile intercontinental. Vous pouvez nous décoder un petit peu cela?
Déjà je trouve que le symbole est particulièrement beau, hein, que ce soit une coopération internationale entre Russes et américain depuis un missile qui devait être détruit, puisque c'est un ancien lanceur de bombes, hein, tout simplement, qui devait être détruit. Et plutôt que de le détruire, c'était une très belle expérience de l'utiliser avec une charge utile qui soit un voilier solaire. Donc voilà un peu ce contexte qui est très international et qui rejoint, là encore, un beau symbole.
Oui, parce que les missiles balistiques, pour atteindre les États-Unis à partir de l'ex-URSS, doivent passer par l'espace. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre en orbite des charges.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est, là encore, pour voir ce qui est positif dans cette expérience, c'est qu'un petit lanceur suffit pour lancer un voilier solaire. C'est-à-dire qu'un voilier solaire étant très léger...
c'est pas lourd.
C'est pas très lourd, il faisait quoi? Je crois bien 100 kilos à peu près, Cosmos. Et pourtant, il devait faire 30 mètres une fois déployé, des grands pétales de 15 mètres de long. Mmh. Donc c'est bien la preuve qu'un petit lanceur, tel qu'un missile intercontinental, peut être assez puissant pour satelliser à 800 km un engin tel qu'un voilier solaire. Donc ça, c'est... On n'a pas prouvé la faisabilité de l'ensemble parce qu'on n'en a pas eu la chance, puisqu'il y a eu ce problème, mais on a prouvé qu'il était possible de lancer une mission.
Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est que cette idée de lancer des voiliers dans l'espace, pourquoi on ne l'a pas fait depuis le début de la conquête spatiale, depuis les années 50, qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le principe de fonctionnement, quelle est la base de l'idée?
Le principe de fonctionnement de la voile solaire, donc on peut donner quelques éléments de vraiment explicatifs sur le principe de fonctionnement d'un voilier. Un voilier est poussé par la pression de la lumière. La lumière est faite de petits photons, des petits grains de lumière, qui, lorsqu'ils rencontrent une surface, exercent dessus une pression. Alors cette pression est toute petite. On donne régulièrement un ordre de grandeur qui est, supposé que vous ayez une voile de la taille d'un terrain de football, et bien la pression exercée par la lumière sur cette voile, c'est à peu près le poids d'une pièce de monnaie ou d'un morceau de sucre.
Très peu.
C'est tout à fait chouïa, c'est vraiment pas grand-chose. Mais évidemment, vous êtes en apesanteur lorsque vous êtes dans un vol dans l'espace.
Dans le vide.
Dans le vide, pas de frottement, rien. Et par là même, vous pouvez cumuler cette force dans le temps, accélérer faiblement, mais de façon continue, et atteindre à terme des vitesses tout à fait fantastiques.
Donc, cette voile n'est pas propulsée par du vent, elle est propulsée par la pression de radiation, en quelque sorte, des petits grains de lumière.
Alors, le vent, c'est une belle image. C'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles hein, autour des voiliers solaires. C'est une belle image. C'est une image fausse au pied de la lettre. Hein. On rectifie souvent cette idée-là parce que le vent solaire existe. Il y a quelque chose qu'on appelle le vent solaire qui sont des particules lourdes émises par le soleil. Or, elles sont pour très peu dans la pression qui est exercée sur un voilier. Et pour beaucoup, ce sont des particules qui traversent de part en part le voilier. Donc, ce qui exerce une force, c'est la lumière proprement dit. C'est-à-dire que la lumière que vous recevez sur une plage du soleil ou chez vous d'une lampe exerce une pression. Alors, elle est vraiment toute tout à fait petite, hein, j'insiste là-dessus, mais elle n'est pas nulle, et c'est pour ça qu'on a besoin de créer ces grands voiliers qui vont en tirer parti au plus fort.
Alors, je regardais, c'est parce que c'est cumulatif. Hein,
exactement.
C'est très, 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 très peu, c'est chouïa, vraiment, chouïa. C'est une petite pichenette à chaque seconde, mais si on attend longtemps, donc, cette force, on arrive à des puissances qui sont importantes. Bon, au bout de 24 heures, on le lit dans la littérature, en tout cas sur vos sites, sur votre site, par exemple, au bout de 24 heures, on atteint 15 km heure. Au bout d'un mois, 450 km heure. Au bout de deux ans, on est à 100 000 km heure. Ça veut dire qu'il ne faut pas être pressé, simplement.
Alors, il ne faut pas être pressé. Une petite rectification, c'est un ordre de grandeur. Ouais. Tout dépendra après de la performance de la voile. Ce qui est d'ailleurs une question passionnante, sur laquelle on aime bien revenir, c'est que des voiliers sont encore à inventer. C'est-à-dire que la performance de la voile, puisque vous avez une pression qui s'exerce dessus, sera meilleure si la voile est peu massive. Autrement dit, ces chiffres peuvent être encore plus importants si la voile à une masse plus faible. Et c'est un enjeu important aujourd'hui où l'électronique est à puissance égale de plus en plus petite, comme sur votre ordinateur qui a sur votre bureau depuis 15 ans. Imaginez la puissance et le poids, comment ça diminue. Alors, effectivement, il ne faut pas être pressé pour répondre à votre question. Il ne faut pas être pressé. Le sommes-nous pour l'exploration spatiale? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même plusieurs mois pour aller sur Mars. Avec une voile solaire, on réduit encore. Donc, c'est quand même des ordres de grandeur qui, pour des missions interplanétaires, peuvent être inférieures à des...
On irait plus vite sur Mars avec une voile solaire qu'avec de la propulsion actuelle?
Avec une bonne voile, oui. Avec une bonne voile, avec une petite masse utile, on peut aller plus rapidement vers Mars.
Alors, comment sont fabriquées ces voiles? Par exemple, Cosmos 1, c'était quoi la nature de la voile?
Alors, la nature de la voile, il faut... un matériau qui a des propriétés particulières, qui soit résistant, qui se déchire pas facilement. Imaginez une petite météorite, c'est pas bien grave, mais ça fait un trou. Donc il faut pas que le trou se déchire. Il faut qu'il y ait pas trop d'électricité statique. Il faut que ça reflète bien.
Alors ça se déploie bien aussi parce que c'est considérable comme
exactement.
Comme surface.
Il faut que ça se déploie bien, que ça se plie bien. Il faut que ça ne colle pas par d'électricité statique ou autre chose ou des bulles d'air résiduelles lorsque vous déployez l'ensemble. Donc il y a des matériaux, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits là-dessus, du carton, du millard, etc., qui sont, en fait il y a deux matériaux sur une voile habituellement, d'une part un polymère, enfin une matière plastique avec des grosses molécules, qui va être très résistant, et puis après une couche, qui peut être une couche d'aluminium, qui va vous faire un miroir absolument parfait.
Ah oui, l'idéal c'est un miroir en fait.
L'idéal sera un miroir, d'ailleurs un miroir a déjà volé, comme le miroir Znamia, et vous voyez, c'était...
Il a montré que ça a marché.
Il a montré que ça pouvait marcher. Donc il y a eu des... Et c'est également pour parler des succès de ces derniers mois. Cosmos nous a appris beaucoup de choses, nous apprendra encore beaucoup de choses. Mais il y a également des beaux projets qui ont eu lieu il y a à peu près un an, c'était au mois d'août. L'agence spatiale japonaise, l'agence JAXA, a lancé, c'était le 9 août dernier, si mes souvenirs sont bons, a lancé un voilier. Alors, ce n'était pas pour autant un voilier comme Cosmos pilotable, mais c'était un test de déploiement en vol balistique, c'est-à-dire un vol qui retombe après sur Terre, mais qui dure suffisamment longtemps pour tester le déploiement de la voile. Oui. Donc, on avance, on a des échecs, comme tout projet spatial. Je ne vais pas noyer le poisson dans l'eau, hein. On est forcément frustré de ne pas voir. Mais moi, je pense qu'on avance. Et de la même façon, par exemple, que dans les années 90, on a vu des échecs de missions vers la planète Mars, par exemple. Et vous avez vu les belles réussites qu'on a eues après, avec Mars Express, avec etc.
Olivier Boisard, quand on regardait les dessins, puisque là, nous sommes, je le rappelle toujours, sans nouvelles, et je pense définitivement de ce Cosmos 1, la forme de la voile ressemblait à une sorte de grande roue pleine, à peu près 600 mètres carrés de superficie, des pétales, 8 pétales en forme de triangle qui s'ouvraient. Pourquoi une telle configuration? Qu'est-ce qui préside, encore une fois, à une définition géométrique d'une voile spatiale solaire?
Alors, on peut développer l'idée de Cosmos. Il y a d'autres idées hein, qu'on pourrait également aborder si vous le souhaitez. Alors, l'idée de Cosmos est très efficace, c'est très bien. Déjà, elle est belle. C'est une pâquerette. Hein, c'est une pâquerette qu'on a dans le ciel avec des grands pétales. Alors, plein d'intérêt à avoir des pétales séparés. Premièrement, vous pouvez tourner les pétales autour de leur axe et donc contrôler un peu la force qui s'exerce sur la voile. Un peu comme sur un bateau, vous avez plusieurs voiles, vous tirez, vous commandez. Deuxième chose, on aime bien en industrie spatiale dédoubler tous les systèmes par sécurité s'il y en a un qui ne marche pas. Ben là, on ne l'a pas dédoublé, on l'a en 8 exemplaires. C'est-à-dire que même si 7 pétales ne peuvent plus s'orienter, sont bloqués, il y en a toujours un qui peut tourner. Autrement dit, un système qui a une grande fiabilité.
Alors, évidemment, quand on pense voile, on pense navigation. Et quand on pense navigation, on pense navigateur. Qui est le Tabarly du spatial aujourd'hui? Comment ça se pilote et où sont les équipes?
Alors, qui le pilote? Déjà, il ne faut pas que ce soit uniquement un ordinateur. Je pense qu'il faut, et là je vais parler aussi, je vais prêcher pour l'U3P et nos idées de faire des courses de la Terre à la Lune, de voiliers solaires. Il faut des calculs, bien entendu, mais il faut également conserver une manœuvrabilité de l'engin pour pouvoir avoir des stratégies de vol. Et au sol, vous êtes en train de prévoir telle stratégie de vol, profiter de telle orbite, etc. Vous envoyez un signal à l'engin qui va après contrôler tout ça pour faire ce que vous... La direction, enfin, voir la direction dans laquelle vous voulez aller.
Oui, parce que le vent ne change pas, il est toujours constant.
Il est constant,
oui.
Mais la voile tourne. Donc, parfois, elle a le vent dans le dos et parfois de face. Donc, on va jouer sur la rotation de la voile, son orientation, pour pouvoir voir tout ça.
On peut prendre un cas concret, puisque Olivier Boisard, vous êtes président de l'U3P, donc l'Union pour la promotion de la propulsion photonique, qui s'est créée, si mes informations sont bonnes, aux alentours de 1981, autour d'un projet qui est le projet de faire une course à la voile Terre-Lune. Alors, bien sûr, où vous en êtes aujourd'hui, mais le but c'est quoi?
Alors, le but c'est quoi? C'est de dire, imaginez que trois continents, pourquoi pas demain vraiment avoir tout le savoir-faire développé pour Cosmos, pour concevoir une nouvelle voile, pourquoi pas imaginer mettre en œuvre les voiles que l'on a conçues avec des spécialistes au sein de l'U3P, pourquoi pas contacter des Japonais, des Russes, etc. Et vous imaginez différents voiliers qui vont être lancés dans l'espace, et à partir de là, on ferait une course pour... À partir de cette stratégie de vol que chacun va avoir, donc il y a un côté sportif et un côté compétition, le premier qui pourra atteindre l'orbite de la Lune, prendre une photo de la face cachée de la Lune, et à partir de là, vous aurez donc cet événement tout à fait original à organiser.
C'est pas un voyage en ligne droite, hein, c'est moins qu'on puisse dire.
Ah non, on va beaucoup tourner. On va beaucoup tourner.
Oui. Ça consiste à partir de la Terre, à se mettre en orbite autour de la Terre, à déployer la voile, et ensuite à faire des ronds de Terre, si je puis dire, jusqu'à les élargir, les agrandir, jusqu'à atteindre l'orbite lunaire.
Exactement. Vous allez faire une grande spirale. Et puis vous allez bien viser pour passer derrière la Lune, prendre une photo de la face cachée de la Lune, et vous aurez gagné le trophée de la course Terre-Lune.
Qu'est-ce qui va distinguer les concurrents? Les formes des voiles? Les capacités des équipages à l'orienter, à acquérir de la vitesse?
Alors je pense qu'il faut être ouvert justement effectivement à des formes de voiles très différentes. L'idée étant également de tester la technologie au-delà de la course. Donc on peut imaginer des très grands voiliers, des plus modestes, mais on compenserait par des handicaps, etc. Donc voilà, on peut imaginer vraiment tout type de voilier participant à cette course.
Et toute forme de voile?
Toute forme de voile, puisqu'on peut imaginer des voiles de formes très différentes. Cosmos était un pétale, enfin une fleur avec des pétales. L'U3P va imaginer la première génération de voiliers dans les années 80, qui était une voile carrée, comme... les Américains avaient également développé des concepts de voile carrée. Actuellement, alors on présentait, l'U3P présentait au Bourget la semaine passée une maquette de notre prochain concept de voilier qui est une voile gonflable circulaire. Alors vous imaginez un grand rond, vous avez un boudin gonflable tout autour, vous avez trois grands mâts qui vont aller vers un noyau de ce voilier, et en bougeant les mâts, vous pourrez orienter la voile, je vous passe les détails, mais à partir de là, vous aurez donc un voilier tout à fait original qui permettra de voyager dans l'espace. Donc vous voyez, rond, carré, fleur, ouais. Il y avait eu un concept également qui s'appelait l'héliogyro, développé par des Américains dans les années 70, qui était des longues lames de kilomètres de long, très étroites et très longues. Donc vous voyez encore des idées. Il y a beaucoup de choses à inventer.
Ce sont des voiliers et ce sont des... J'ai utilisé le mot de spi parce qu'en fait je référence à la voile sur Terre, mais pratiquement sans bateau. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de quille.
Il y a un petit noyau avec de l'électronique. Mais il doit être plus petit possible pour pas peser lourd. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément, c'est pas un voilier solaire n'est pas forcément prévu pour être habité. Il faudrait une charge trop lourde, ou alors des voiliers de science-fiction. Mais là, on en reparlera dans un an. Donc voilà.
Ah, Olivier Boisard, à votre avis, pourquoi est-ce que les agences spatiales, alors je ne vais pas utiliser le mot officiel parce que c'est comme s'il y en avait des officieuses, mais en tout cas les grandes agences spatiales européennes, américaines, japonaises, etc., chinoises, russes aujourd'hui, ne construisent pas de vaisseaux à voile?
C'est une question rituelle. Toutes ont fait des études sur le sujet, dont toutes sont intéressées. Là, on touche à un domaine du spatial qui est, pour les voiles solaires, l'exploration notamment du système solaire, qui est une des principales applications. Donc c'est vrai qu'il y a déjà eu des sondes, il n'y a pas énormément de missions interplanétaires, il y en a eu des très belles, mais qui ont utilisé des moyens classiques, et on peut parfaitement imaginer dans les années à venir utiliser ces voiliers solaires. Donc l'idée n'était pas prioritaire les années passées, parce qu'il y avait des moyens chimiques, enfin des fusées chimiques, des moyens traditionnels. C'est vrai que le marché aujourd'hui de l'industrie spatiale tourne beaucoup autour des télécommunications, ce genre de satellites qui restent près de la Terre.
C'est antinomique avec la puissance, le poids, la rapidité, enfin tout est...
Aujourd'hui, l'espace, c'est bien pour faire des satellites géostationnaires beaucoup, enfin pas uniquement, mais c'est un marché important qui sont, comme leur nom l'indique, stationnaires, enfin... qui reste relativement toujours pareil dans le ciel. Alors qu'une voile, elle n'est pas stationnaire.
Un de vos collègues dans l'association, qui s'appelle donc Jean-Yves Prado, qui est ingénieur au CNES à Toulouse, hein, qui est membre de l'U3P, dit l'industrie lourde, en parlant du spatial, s'intéresse plus aujourd'hui aux navires de commerce qu'aux planches à voile. Vous conserveriez cette image?
Mais Jean-Yves a une très belle image, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai que, cela dit, il y a des planches à voile aussi. Donc il faut et l'image me plaît d'autant plus qu'elle est sportive et que je pense pour ma part qu'une course Terre-Lune devrait voir le jour, pourquoi pas associer à un grand événement sportif. Imaginons.
Alors les contraintes, c'est bien évidemment l'alimentation, si je puis dire, en puissance solaire. Plus on s'éloigne du soleil, plus la force faiblit.
La force faiblit, et c'est vrai que la voile est plutôt faite pour voyager vers les planètes intérieures. À partir de Jupiter, vous allez effectivement avoir moins d'énergie, mais déjà il y a beaucoup à faire. Donc je pense qu'il y a déjà en tant que...
Mais c'est surtout pour être honnête, c'est surtout une merveilleuse occasion d'expliquer comment ça marche dans l'espace. C'est-à-dire d'expliquer à la fois le soleil, la gravitation, la pression des radiations, comment, à quelle distance sont les planètes, etc. C'est aussi une très belle aventure pédagogique, on va dire.
C'est une aventure pédagogique. On parlait des symboles tout à l'heure. C'est un lien, et pour moi c'est une chose importante à mes yeux, entre la science, la technologie, l'aventure.
Comment vous vous définissez comme des rêveurs, comme des ingénieurs, comme des gens qui avaient un loisir original et intéressant, on va dire.
Oui, je pense qu'il y a, tous ces passions, je crois que c'est le terme qui réunit tout ça, quoi. Il y a tous ces passions de l'aventure, de la science, et puis de tout ce que porte en elle-même la voile solaire. Donc oui, on a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, et c'est pour ça qu'on a toujours souhait de rester concret, un rêve réalisable, un rêve doit rester réalisable et accessible. On a été vraiment pas très loin avec Cosmos et on va y arriver, on va y arriver. Donc il est important qu'on ait demain cette expérience, cette aventure qui se concrétise. Et on est convaincu qu'on y arrivera avec des vrais projets. Aussi, ça dépend aussi de la volonté, de l'intérêt de tout le monde pour ce type de projet. S'il y a un intérêt pour les voiles solaires, elles verront le jour et peut-être rapidement.
Merci Olivier Boisard. Je rappelle que vous êtes le président de l'U3P, donc l'Union pour la promotion de la propulsion photonique. Je ne vous dis pas bon vent, mais en tout cas je vous retrouve vraisemblablement pour le prochain projet après Cosmos, un dont nous sommes toujours sans nouvelles et vraisemblablement définitivement. On marque une petite pause, on se retrouve dans quelques instants.
C'est la période des soldes. Vous me direz...